Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. En s'intéressant aux cellules du cerveau, à leur communication, à leur impact sur le comportement et sur la cognition des organismes, les neurosciences apportent un éclairage sur le fonctionnement de notre matière grise. On peut dire que la prise de décision est au cœur des questionnements neuroscientifiques et pour cause, nous en prenons constamment. Du basique, comment est-ce que je vais m'habiller ce matin, à dois-je accepter ce poste, quel que soit leur teneur ou l'enjeu qui en découle, comment prenons-nous nos décisions? Ces 10 dernières années, les connaissances acquises grâce aux neurosciences ont fait des pas de géant. On sait désormais que lorsque l'on décide, pas moins de 5 structures cérébrales peuvent être mobilisées. De quoi faire de ce mécanisme l'un des plus difficiles à cerner et donc à contrôler. Qui plus est, outre l'impact des motivations qui guident le comportement, ces actions intègrent à la fois les paramètres de l'environnement, l'histoire du sujet activant ou réactivant des processus de mémoire et ses émotions. À quel processus cognitif correspond la prise de décision? Comment peut-il être influencé? Est-il possible de décider en toute connaissance de soi? Cette semaine, le Labo des Savoirs navigue entre sciences exactes et philosophie, une émission co-animée par Agathe Petit et Ludivine Vendée.
Et pour répondre à ces questions, deux spécialistes. Frédéric Robin, maître de conférences en psychologie cognitive à l'Université de Nantes. Vos recherches portent notamment sur la mémoire, les images mentales et les émotions. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Danemier, que nous avons eu la chance de recevoir lors du dernier Café des Sciences à l'occasion de la Semaine du Cerveau. Donc vous êtes chercheur et praticien au CHU de Nantes, neurologue, spécialiste de la maladie de Parkinson. Et vous êtes également l'auteur du livre « Décider en toute connaissance de soi » aux éditions Odile Jacob, auquel Agathe faisait référence en introduction. Bonjour.
Bonjour.
Donc, parmi nos super chroniqueurs, nous aurons Cathy Dogon qui nous parlera du rôle des émotions, Valentin Briche qui s'est intéressé aux effets des flux numériques sur notre cerveau et Camille Sicot qui a voulu mettre une pointe de philosophie dans cet échange.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Afin de comprendre ce qui se passe dans notre tête lorsque l'on prend une décision, précisons que nous avons en fait 3 cerveaux. Les 2 premiers sont très anciens, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Chacun de ces cerveaux remplit des tâches bien précises. La prise de décision est un processus complexe dans lequel les 3 cerveaux ont potentiellement un rôle à jouer. Philippe Danemier, comment est-ce qu'on définit la décision en termes neuroscientifiques ?
Prendre une décision, quelque part, c'est faire un choix qui va conduire à une action, un comportement, ou à la décision d'une non-action. Alors, des décisions, comme vous l'avez dit en introduction, il y en a plein. Il y en a des banales, comment je vais m'habiller ce matin, il y en a des plus complexes, quel poste j'accepte, quel achat immobilier, voiture je fais, quel conjoint je choisis, etc. Et toutes ne vont pas utiliser le même système. Pour faire schématique, on peut dire qu'il y a des systèmes qui sont vraiment sous contrôle, c'est-à-dire que j'ai pleine conscience de la décision que je suis en train de prendre. Par exemple, si je décide d'acheter une voiture, je vais peser le pour, le contre, etc. Donc, a priori, j'ai l'air de contrôler tout ça. Et puis, il y a des tas de décisions automatiques qui sont moins sous contrôle, dont j'ai une conscience plus partielle et qui vont entrer en jeu dans plein de décisions qu'on prend. Et tout le problème va être souvent d'avoir un bon fonctionnement entre les deux, puisque les automatiques sont quand même un petit peu sous contrôle, et surtout celles sous contrôle peuvent être influencées par les automatiques, pas toujours dans le sens qui nous intéresse.
Alors il y a une zone plus spécifique dont le fonctionnement a été mis en évidence en 2015 par des chercheurs de l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine. Elle s'appelle le striatum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ah, le striatum, donc ça se fait partie de ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Donc c'est des structures cérébrales qui sont vraiment au centre du cerveau, qui sont très importantes dans tout ce qui va être l'automatisation des gestes pour sa partie motrice, mais aussi l'automatisation des comportements, l'automatisation des humeurs, l'automatisation des pensées. Donc ça va sur des tâches motrices où c'est bien connu, mais sur des choses plus sophistiquées où ça commence à être connu. Alors ce striatum, pour bien fonctionner, il faut qu'il ait beaucoup de dopamine. Donc c'est par exemple ce qui manque dans la maladie de Parkinson. Et dans cette maladie, il y a un dysfonctionnement important du striatum. Alors comme le striatum, il est là au centre de l'automaticité de nos gestes et de nos comportements, il va être très important dans toutes les décisions un peu automatiques. Il va jouer certainement un rôle dans ce qu'on appelle l'intuition, dans les choses qu'on fait rapidement. Quoi.
Oui, quand vous parlez d'automatisme, c'est-à-dire qu'il y a des décisions plus instinctives que d'autres, comme marcher, par exemple ?
Voilà, tout à fait. Marcher, on le fait de façon automatique. On prend presque pas, ou on prend la décision de partir et puis de s'arrêter. Mais quelque part, une fois que le geste est parti, il est parti, on n'y pense plus. Et tout l'intérêt de ces automatismes cérébraux, c'est justement de pouvoir dégager nos capacités attentionnelles, donc le reste du cerveau, pour faire les choses qui m'intéressent. Donc quand je suis en train de marcher, je ne suis plus en train de penser que je marche. Et du coup, je peux penser à parler, à regarder le paysage qui est autour de moi, ou faire attention, etc.
Certaines études parlent aussi du thalamus submédian. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on est sur une autre zone cérébrale?
Non, c'est un autre noyau. Alors le thalamus, il y a plein de noyaux à l'intérieur. C'est une espèce de grand relais entre pas mal de structures cérébrales. Donc ça fait partie aussi des noyaux gris centraux. C'est ces amas de cellules nerveuses qui sont au centre du cerveau.
Pourquoi est-ce que c'est si compliqué parfois de prendre une décision? Est-ce que c'est justement cette interaction de zones cérébrales qui rend ça...
Ça dépend le type de décision, parce qu'il y en a qui ne sont vraiment pas difficiles à prendre, que vous prenez automatiquement sans y penser. Par contre, il y a certaines décisions, parce qu'elles sont lourdes de sens pour vous, parce qu'elles ont des enjeux importants sur le plan financier, sur le plan de votre orientation professionnelle, personnelle. À ce moment-là, ça génère un certain stress et il est normal, et il y a des processus dans le cerveau pour freiner ces décisions, pour vous donner vraiment le temps de bien apprécier le pour, le contre et de prendre la meilleure décision possible. Alors ces structures, elles mettent en particulier en jeu une zone dans le cerveau qu'on appelle le cingulum antérieur, qui est relativement médian dans le cerveau et qui freine un peu le processus décisionnel. Alors il y a des gens qui ont certainement un cingulum antérieur plus actif que d'autres. Et donc ces gens-là ont du mal à prendre des décisions, sont toujours très hésitants. Et d'autres ont un cingulum antérieur qui fonctionne plutôt moins fort et du coup prennent des décisions plus impulsives. Alors ce qui peut nous intéresser, nous, en tant que neurologues ou psychiatres, c'est justement des gens qui ont des troubles à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout un chacun va avoir tendance à freiner certaines décisions, à prendre d'autres de façon plus impulsive. Mais dans certaines situations pathologiques, sous l'effet de certains médicaments, vous pouvez soit ne plus arriver à prendre de décisions, tellement vous êtes anxieux par ça. C'est ce qu'on va observer dans les troubles obsessifs compulsifs, où les gens sont tellement obsessionnels qu'ils n'arrivent plus à décider. Ou à l'inverse, des gens qui ont ce qu'on appelle des troubles de contrôle des impulsions, donc qui, eux, prennent des décisions de façon impulsive, automatique, sans vraiment y réfléchir, et ils peuvent se mettre en danger, etc.
Est-ce que l'impulsivité, c'est nécessairement une mauvaise chose? Parce qu'on oppose souvent rationnel et impulsion. Finalement, il n'y a pas vraiment de modèle type.
Alors, tout dépend le niveau d'impulsivité. Alors, rationnel, c'est le cerveau. Pour faire très schématique, très simple, c'est le cerveau qui est conscient, c'est celui qui mobilise toutes nos capacités attentionnelles. Donc ça nécessite de l'énergie. On va effectivement peser le pour, le contre, essayer de bien analyser. Mais ça, on ne peut pas le faire pour toutes nos décisions. Donc c'est pour ça qu'on a des systèmes automatiques qui doivent fonctionner, qui doivent bien fonctionner pour nous permettre de prendre toutes les décisions banales sans occuper notre cerveau à d'autres choses et pour libérer justement notre cerveau rationnel. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut une bonne coordination entre les deux. Alors s'il y a trop d'impulsivité, là on rentre dans une impulsivité pathologique qui elle est délétère.
Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain américain Frank Herbert. Il a écrit un roman qui s'appelle « Les enfants de Dune » et dans ce roman il écrit « Trop de connaissances ne facilite pas la plus simple des décisions. » Est-ce que vous êtes d'accord?
Plus on connaît de choses, moins on en connaît. Donc c'est difficile. Effectivement, si on a énormément de connaissances, on peut être dans le doute permanent. Et c'est vrai que dans la démarche scientifique, on connaît toujours la limite des choses qu'on observe, des faits qu'on avance, on va les nuancer. Et finalement, on peut être gêné pour donner un discours un peu simple et accessible. Et donc, quelque part, freiner nos propositions et de même pour nos décisions. Alors que si on fait de façon plus instinctive, plus automatique, la décision se prend toute seule.
Est-ce que de l'autre côté, si on juge simplement d'un point de vue qualitatif, la décision qu'on va prendre, ce n'est pas justement l'accumulation de connaissances qui va nous permettre de mieux prendre nos décisions? Parce que c'est aussi ça le sujet de l'émission, comment mieux prendre nos décisions?
Oui, bien sûr, toutes nos connaissances vont être intégrées dans le choix d'une décision. En fonction de ce qui s'est passé dans nos décisions antérieures, selon qu'elles ont rencontré nos attentes ou pas, notre cerveau va être modelé en permanence et va réorienter pour encourager des décisions qui allaient dans le sens des précédentes qu'on a prises qui ont été couronnées de succès. Et là, ça va impliquer, et ça a été pas mal travaillé ça, ces dernières années, cette fameuse dopamine cérébrale qui, elle, est un peu un indicateur dans le cerveau. Est-ce que ce que j'obtiens est en accord avec ce que j'attendais? Ou est-ce que c'est plus? Si c'est plus, je vais libérer de la dopamine, donc ça m'indique que j'ai vraiment fait le bon choix. Si par contre, c'est pas en attente avec ce que j'attendais, je vais plutôt freiner ma libération de dopamine et ça indique à mon cerveau, non, c'est pas le bon choix. Et donc, ça va renforcer les voies qui vont vers les actions qui conduisent sur des décisions antérieures qui m'avaient été favorables.
Juste pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez réexpliquer rapidement ce que c'est que la dopamine?
La dopamine, ça fait partie des multiples neurotransmetteurs. Donc c'est une molécule qu'il y a dans le cerveau et qui va être libérée par certaines cellules nerveuses, des cellules qui fabriquent de la dopamine et qui va moduler beaucoup de choses dans le cerveau et qui est entre autres très impliquée dans les processus de motivation, de récompense et qui va aider à façonner notre cerveau, comme je l'expliquais, en fonction des décisions antérieures, des résultats des décisions antérieures.
Frédéric Robin, on parle de facteurs cérébraux depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut considérer les émotions comme les facteurs psychologiques, puisque c'est votre spécialité, qui interviennent dans le processus décisionnel?
Alors indéniablement, je dirais aujourd'hui, on sait pertinemment que toute activité mentale, mais qui plus est la prise de décision, va être fortement affectée par les émotions.
Nous n'avons pas 4 heures devant nous, évidemment. Malgré tout, Camille Sicco, nouvelle chroniqueuse du Labo des Savoirs, a tenté de répondre à une question compliquée. Décider, est-ce choisir?
Au cours de notre vie, nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des choix, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Mais est-ce que décider, c'est choisir? Ou comment la philosophie peut s'insérer dans les neurosciences? Par définition, choisir, c'est faire des comparaisons entre plusieurs choses, exercer son jugement et user de son goût, afin d'adopter quelque chose de préférence à une autre. Décider, c'est prendre le parti de faire quelque chose, se déterminer à l'entreprendre, de prendre la résolution qu'un événement ait lieu. Étymologiquement, décider, c'est trancher sur une question. Cela vient du latin « caedere » qui signifie « couper, trancher ». Choisir est issu étymologiquement du vieux français « quasir » qui signifie « distinguer », voire distinctement. Là encore, leurs définitions sont assez proches. Est-ce également le cas pour leur processus? Décider implique qu'à un moment justement décisif, on a tranché sur des possibilités différentes sans être sûr d'avoir pris le bon choix. Si nous attendions d'avoir des arguments justifiant que nous effectuons le bon choix et d'être sûr avant d'agir, nous n'agirions jamais. C'est pour cela qu'agir dans le doute, c'est décider, non pas choisir. Selon le philosophe Charles Pépin, la décision relève de l'art et non de la science, de l'intuition, non pas de l'argumentation. Il paraît évident, suivant ce raisonnement, que si l'on savait, il n'y aurait rien à décider. Dans la situation d'une prise de décision, le cerveau cognitif et le cerveau limbique, qui est responsable des émotions, envoient des messages de concert. Le cerveau cognitif fait l'inventaire des conséquences de chaque choix probable. Il envoie chaque scénario au cerveau limbique, qui sélectionne les meilleurs scénarios ou les messages les plus pertinents. Pour chaque message reçu, il envoie un message directement à la partie du cerveau, déclenchant les mouvements corporels à partir du ressenti de l'individu sur tel ou tel scénario. Ceci permet à l'individu de percevoir rapidement et distinctement le message. Il stocke les meilleurs scénarios, soit ceux qui correspondent le mieux aux valeurs, intérêts vécus de l'individu, travail toujours effectué de concert par les deux parties du cerveau. Le processus se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un choix, le meilleur selon la perception de l'individu. Ceci est le premier type de fonctionnement mental. Pour résoudre un problème, il est analytique. C'est une manière de procéder consciente, logique, stratégique, cadrée et qui demande de l'effort. À son contraire, le deuxième fonctionnement est intuitif. L'intuition est requise lorsque nous ne disposons pas de tous les éléments pour prendre une décision fondée, c'est une cognition rapide. Ce procédé est inconscient, associatif, sans effort, spontané et hors du cadre. Lequel est le meilleur? Tout dépend de la situation.
Décider semble donc quelque chose de lié à l'instant présent et aux émotions, alors que choisir semble plus pragmatique et procède d'une analyse logique effectuée dans le temps. Décider est-ce choisir ? L'inverse serait peut-être plus vrai.
Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
Merci à Camille Sico pour sa chronique. Des réactions dans l'assistance ou pas ?
Non, mais je crois qu'elle évoque un certain nombre de choses qu'on a vues avec ce contraste entre les décisions rationnelles et les décisions plus intuitives. Alors dans l'intuition, il y a plein de choses qui jouent. Il y a les émotions, bien sûr, c'était plus là-dessus que c'était axé. Mais il y a aussi les comportements automatiques, la mémoire. Tout ça interagit l'un l'autre, donc c'est très, très compliqué.
On va y revenir en seconde partie de cette émission. On était dans la philosophie, mais finalement, le sujet de la décision, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Frédéric Robin, a longtemps été abordé uniquement par les psychologues. Qu'est-ce que la neurobiologie, qu'est-ce que les neurosciences ont changé dans votre...
En fait, les neurosciences sont venues compléter, j'ai envie de dire, et puis c'est même un échange, puisque d'une certaine manière, ils ont complété donc, la description, si je puis dire, qu'on pouvait faire d'un point de vue psychologique du processus décisionnel, en y associant donc des régions cérébrales spécifiques. Et puis depuis, c'est un échange constant entre le fonctionnement normal et le dysfonctionnement. Puisque étudier également les dysfonctionnements dans la prise de décision permet également d'enrichir notre compréhension du fonctionnement normal de l'individu.
On va faire une première pause musicale avec Act Like You Know de Fat Larry's Band. Yeah, you wanna know. Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low and you need a place to go. Oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know.
Can count on it.
c'est le Labo des Savoirs.
De retour sur le plateau du Labo des Savoirs, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Damier et de Frédéric Robin pour tenter de percer les mystères de la prise de décision. L'homme est libre de penser et de décider, il possède un libre arbitre. Et pour prendre une décision, le cerveau va utiliser différentes ressources à sa disposition. Intuition, émotion, fait, il va peser le pour et le contre, prendre le temps de la réflexion ou bien se hâter. Néanmoins, si certaines informations peuvent nous sembler importantes et utiles, la plupart constituent des biais et peuvent donc potentiellement nous mener vers ce qu'on peut appeler la mauvaise décision. Parmi ces biais, ces facteurs influents, il y a les émotions. Cathy Dogon.
Edith Piaf évoquait là la seule de nos émotions qui ne dépend pas d'un facteur extérieur, contrairement à la déception ou à la joie. Le regret, selon Angela Sirigu, est étroitement lié au sentiment de culpabilité.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Il impacte donc nos prises de décision, car nous anticipons ce sentiment en voulant y échapper. Et le cortex préfrontal est ici sollicité. C'est justement en se souvenant d'une action que nous avons mal choisie que naît ce sentiment. Nous sommes alors conscients que notre choix aurait pu être différent. Quand la situation ne dépend que du hasard, nous ressentons de la joie ou de la déception.
Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Certaines personnes ne perçoivent cependant pas de regret. Elles souffrent parfois d'une lésion du cortex préfrontal ventromédian. Selon cette étude, les seules émotions ne suffisent pas à influencer nos choix, mais je cite, « se combinent avec les processus cognitifs, comme le sens des responsabilités ». Le regret est donc à mi-chemin entre le système de prise de décision rationnelle et émotionnelle. On l'a dit, le système rationnel se situe dans le cortex préfrontal, mais le système émotionnel se trouve, lui, dans ce que l'on appelle les profondeurs du cerveau, ou encore les noyaux sous-corticaux. La jonction se fait dans le cortex orbitofrontal, juste derrière l'œil gauche. Phineas Gage est le premier cas neurologique à avoir confirmé cette hypothèse au 19e siècle. Sa tête a été transpercée par une baramine du haut du crâne jusqu'à la pommette gauche en perforant donc ce cortex orbitofrontal, exactement où là, la jonction se fait entre la prise de décision rationnelle et émotionnelle. Après son accident, le jeune homme connu comme sociable et sérieux était devenu instable et insociable. Peut-être que ses émotions étaient exacerbées ? Car sous l'influence de la peur, l'individu a tendance à juger les événements à venir de façon pessimiste, tandis que sous l'influence de la colère, il a tendance à les juger de façon optimiste. A l'inverse, il semble également qu'un état émotionnel positif facilite la prise de décisions complexes en réduisant la confusion et en augmentant la capacité d'assimilation de l'information.
Merci Cathy. Philippe Damier, Frédéric Robin, vous souhaitez réagir ?
Oui,
oui. Philippe Damier, allez-y.
Dans les émotions, dans l'introduction, vous mettez que ça pouvait être négatif. Non, ça n'est pas toujours. Hein. Au contraire, je veux dire, si ça a été sélectionné dans l'évolution, ces émotions, elles nous sont très utiles pour prendre des décisions. C'est quand elles sont parfois inappropriées ou trop fortes qu'elles peuvent nous bloquer et bloquer le processus décisionnel. Mais elles ont toute leur utilité.
Frédéric Robin ?
Oui, je voulais juste nuancer. En fait, en règle générale, on peut observer à partir de travaux expérimentaux que lorsque la situation, lorsque l'émotion est négative, on va plutôt avoir tendance à avoir une démarche analytique par rapport à la situation, pour guider la prise de décision, alors que si on est dans si on ressent une émotion plutôt de positive, de joie, à ce moment-là, on va plutôt avoir une interprétation globale de la situation et davantage se référer à ce qu'on va appeler des indices de familiarité. Donc c'est pas du tout la même analyse qui va être faite de la situation. Quoi.
Quand on parle, quand vous parlez d'émotions négatives, vous parlez de la peur ou de ce genre de d'émotions-là ?
Alors ça peut être la peur, le stress, effectivement. Hein. Je pense notamment aux personnes qui ont des décisions à prendre de façon rapide, mais qui peuvent engendrer des catastrophes. Par exemple, ceux qui travaillent dans les opérateurs de centrales nucléaires. Donc, bon, bien sûr, ils sont entraînés, bien sûr, à certains scénarios, mais quand même, le contexte, on va dire, négatif, ce qu'on appelle, nous, de valence négative, hein, et de forte intensité, va les amener quand même à peser le pour et le contre, et à se référer aussi à des schémas déjà acquis. Que si on est dans une situation plus euphorique, on va faire confiance, finalement, à la spontanéité, à l'intuition.
C'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit plus dans un contexte de balance négative.
Oui. Alors, bien sûr, de manière très globale. Hein, c'est... Il y a toujours des exceptions. Mais...
Et quels sont les autres biais qui peuvent influencer nos prises de décision ?
Je vais juste revenir là sur ce contexte, parce que, comme on est en période d'élection, il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années aux États-Unis. Et quand vous écoutez... la personne qui n'a pas vos idées et qui est en contradiction. À ce moment-là, pour vous, il y a du négatif qui s'allume et vous allez le critiquer de façon tout à fait objective et rationnelle. Quand par contre, c'est le candidat que vous supportez qui est en contradiction, à ce moment-là, vous allez l'accepter beaucoup plus facilement et nettoyer un petit peu ces contradictions. Donc on voit ce type de biais qu'il peut y avoir sur l'analyse de la personne qu'on supporte sur le plan politique ou non. On va être beaucoup plus rationnel dans celui qu'on ne supporte pas que dans celui qu'on supporte.
C'est ce que vous appelez le biais de confirmation dans votre...
Alors ça fait appel à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va contre votre pensée intime.
D'accord. Et donc, si on revient aux autres biais ?
Alors, il y a plein de biais. Hein. Alors, dans les biais cognitifs assez simples, il y a par exemple tout ce qui est biais de disponibilité. C'est-à-dire que tous les événements auxquels je suis confronté ne sont pas stockés dans mon cerveau de façon complètement indépendante. Et les souvenirs qui sont les plus récents vont prendre plus de poids que les souvenirs plus anciens. Donc c'est pour ça que si on est un politique qui doit prendre une décision et qu'on écoute un certain nombre d'experts, on a intérêt à prendre des notes de ce que dit chacun des experts, sinon le dernier expert écouté va avoir plus de poids que le premier expert entendu. Et de même, les souvenirs qui sont fortement marqués sur le plan émotionnel, donc si j'ai un souvenir qui est attaché à quelque chose de fort sur le plan de l'émotion, soit j'ai eu beaucoup de peine, soit j'ai eu beaucoup de joie, ce souvenir va être beaucoup plus fort dans ma mémoire que des souvenirs moins teintés sur le plan émotionnel. Et donc ça, c'est des biais qu'il faut avoir en tête pour les corriger et savoir que cet élément-là que je vais prendre dans ma décision, ce souvenir que je vais prendre dans ma décision, a peut-être plus de poids qu'il ne devrait en avoir.
Donc il y a vraiment un lien très fort entre émotion et mémoire vive, on va dire, non ?
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est surtout par rapport à la rapidité de récupération de l'information. En fait, effectivement, les souvenirs les plus récents, on va y avoir accès beaucoup plus rapidement que ceux qui sont plus anciens, avec aussi des détails contextuels qui sont beaucoup plus vivaces que des souvenirs plus anciens qui vont être plutôt thématisés, généralisés et qui vont perdre finalement leur valeur contextuelle, notamment affective.
Et est-ce que justement, à la fois dans nos souvenirs et donc potentiellement dans nos émotions, le biais le plus important, ou je dirais celui qui peut potentiellement le plus nous affecter, ce ne serait pas l'environnement ?
Alors l'environnement...
Nos origines sociales, enfin voilà.
L'environnement, mais aussi l'humeur du sujet au moment présent, au moment où il va prendre sa décision, quoi. On ne va pas prendre du tout face à une situation identique. On ne prendra pas du tout la même décision si on est dans un état heureux et malheureux, quoi, pour prendre cette opposition-là.
Donc
parce que l'analyse en fait, des indices, ça sera biaisée par mon état émotionnel. Hein.
Quand on pèse le pour et le contre pour prendre une décision, finalement, on a en quelque sorte des garde-fous dans notre cerveau. Antonio Damasio a mis en évidence le rôle de ce qu'il appelle les marqueurs somatiques. De quoi s'agit-il exactement ?
Le cas de Gage dont on a parlé tout à l'heure, c'est lui qui le décrit dans l'erreur de Descartes. Voilà. Donc, il y a des marqueurs somatiques d'émotion. Et donc, quand on est dans l'automatique, dans l'émotion, on peut avoir des marqueurs de ça sur le corps, la pupille qui se dilate, le cœur qui s'accélère, etc. Donc, on peut repérer quand le sujet est en train de prendre une décision avec une charge émotionnelle importante. Et ça peut être utilisé. Il y a des études de psychologie cognitive qui s'intéressent à regarder les variations de diamètre pupillaire pour savoir dans quel état émotionnel est la personne qui prend la décision. C'est un indicateur.
C'est presque des symptômes physiques.
Ah oui, tout à fait. De toute façon, la réactivité émotionnelle, ce qu'on appelle l'arousal, c'est totalement physiologique, quoi.
Donc on a beaucoup parlé de nos émotions. Mais il ne faut pas oublier que l'homme est un animal social. Et en quoi les autres, et notamment les émotions des autres, interfèrent dans nos propres prises de décision ?
C'est là aussi majeur, hein. C'est-à-dire qu'on va ressentir de façon très forte l'état émotionnel d'autrui, et ça va avoir des influences, hein. De même que tout à l'heure, on a dit que selon son état émotionnel, on ne prend pas tout à fait les mêmes décisions. Selon l'environnement émotionnel dans lequel on est, ça joue aussi. Quand on prend une décision, on va la faire dans notre intérêt à nous, on a parlé tout à l'heure, mais on va aussi tenir compte de ce qu'autrui peut en penser, de quel effet ma décision peut avoir sur le comportement d'autrui. Et donc ça, c'est tout un champ auquel les neurosciences s'intéressent actuellement, comprendre ce qui se passe quand deux individus interagissent entre eux, hein, puisque c'est les bases de ce qu'on appelle la microéconomie, donc comment des gens se comportent deux à deux, mais aussi dans des groupes plus grands. Et ça, c'est des domaines qui commencent à être explorés, parce que c'est plus difficile d'aller regarder dans le cerveau de plein de gens interagissant les uns avec les autres. Mais c'est un domaine fascinant, et l'humain est d'abord et avant tout un être social, donc le rôle d'autrui est indispensable, est incontournable dans toute décision.
Frédéric Robin.
Oui, et puis je pense aussi que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est relatif également aux croyances et aux valeurs des personnes, et voire même on peut aller au-delà aussi aux traits de personnalité, quoi. Certaines personnes vont pouvoir tenir compte, il y a des exemples dans la vie courante, tenir compte finalement de l'environnement social, alors que d'autres vont réagir par rapport à leur propre perspective.
Donc finalement, quand on dit décider par soi-même, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte-là.
On est acteur, donc on décide forcément par soi-même, hein, mais en fonction effectivement d'un grand nombre de paramètres dont on n'a pas toujours nécessairement conscience.
On prend des décisions différentes en groupe, et est-ce que l'effet groupe est négatif ou positif ?
Donc s'il n'y a pas de biais, le groupe est plutôt positif pour la prise d'une décision, parce que le groupe va permettre d'avoir un enrichissement par la diversité du groupe. Donc pour qu'un groupe fonctionne bien et prenne les bonnes décisions, il y a plusieurs conditions. Il faut que le groupe soit le plus divers possible, donc avec des personnes de sexes différents, de cultures différentes, et que chacune des contributions soit vraiment indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un leader qui s'impose et que tout le groupe va suivre le leader, ce qu'on appelle le système de groupthink, qui peut conduire à des biais décisionnels. Et ça, c'est une des explications de la catastrophe de Challenger, où les experts avaient parlé, mais avaient été insuffisamment écoutés, et le groupe avait suivi les stratégistes de la NASA et au détriment des experts, et avait décidé de lancer ce Challenger, alors que les experts savaient parfaitement que la navette allait exploser au décollage. Donc voilà, le groupe c'est un plus, mais à condition qu'il fonctionne bien.
C'est-à-dire que vous dites que pour qu'un groupe décisionnaire fonctionne correctement, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, issus de milieux différents. Voilà, c'est ça que vous dites.
Tout à fait, oui. Il y a même des études qui sont intéressées à l'intelligence cognitive du groupe et qui montrent qu'effectivement, si on fait des mesures de l'équivalent de quotient intellectuel de groupe, on peut montrer que le quotient intellectuel du groupe est supérieur au meilleur quotient intellectuel de l'individu qui compose les groupes, et que c'était d'autant plus vrai que les groupes étaient riches en femmes versus des groupes où il y avait surtout des hommes. Parce que, en règle générale, les femmes sont plutôt dans le prosocial, alors que les hommes le sont un peu moins, hein, en général. Après, on va trouver des hommes prosociaux et des femmes qui le sont un peu moins.
C'est une conclusion qui intéresserait probablement la classe politique, enfin, qui devrait en tout
cas. Oui, c'est la diversité en politique, c'est important hein, pour les choix, bien sûr. Et dans le monde de l'entreprise aussi. Hein. Combien de dirigeants du CAC 40 sont des femmes? Très peu encore. Et les entreprises commencent à s'en introduire parce qu'ils se rendent compte que c'est une valeur ajoutée certaine. Hein, quand vous êtes dans un marché qui va s'adresser autant à des hommes que des femmes, vous avez intérêt à avoir des femmes dans votre groupe de direction.
Alors, c'est scientifiquement prouvé.
Oui. Je ne sais pas si les femmes sont plus intuitives que les hommes, mais si on revient sur le rôle de l'intuition, comment on peut définir son rôle et définir cette étrange aptitude, en fait, l'intuition dans la prise de décision?
L'intuition, c'est la capacité de percevoir des choses sans qu'on en ait forcément conscience. Donc, c'est avoir une grande acuité de tout ce qui se passe dans notre environnement. Alors, l'intuition peut être extrêmement utile dans nos décisions, à condition que ce qui sous-tend cette intuition soit le fait d'une grande expérience. Donc, je peux me fier à mon intuition si je suis dans mon champ d'expertise. C'est-à-dire si c'est des choses que je connais bien, sur lesquelles j'ai eu un long apprentissage. Donc, je peux faire confiance à mon acuité de tout ce que j'observe dans l'environnement. Si par contre, ce n'est pas du tout dans mon champ d'expertise, là, je peux utiliser cette intuition comme élément de réflexion, mais pas y faire une confiance démesurée. C'est l'exemple que je donne souvent. Je ne suis pas un expert de l'immobilier. Si je visite un appartement et que j'ai une bonne intuition dessus, peut le considérer comme élément de réflexion, mais il ne faut pas que je m'y fie de façon totalement aveugle, hein, parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. Par contre, dans mon domaine, si je sens qu'un patient ne va pas très bien, là, je peux me dire, mais il doit se passer quelque chose, faut que j'active mon rationnel et que je regarde ce qui se passe pour comprendre et essayer d'arrêter l'évolution négative.
Frédéric Robin.
Oui, parce que l'intuition, effectivement, ça peut être aussi une sorte de pari où sur le coup, eh bien, on va réagir, on va prendre une décision, effectivement, mais sans finalement avoir analysé la situation. Donc, on se lance tout de suite dans l'action, dans la réponse. Donc là, c'est fortement intuitif. Le pari peut être bon ou mauvais, quoi. Dès lors qu'on analyse un peu davantage la situation, bien comme vous le disiez juste à présent là, et effectivement, du fait, on va aller rechercher des expériences, des savoirs, des indices, hein, parce que il y a au moins trois sortes, j'ai envie de dire, de processus dans la prise de décision. Hein. Soit il y a l'analyse contrôlée, on recherche d'indices, soit on va produire les choses très rapidement, soit on va se baser sur la familiarité, c'est-à-dire des situations déjà vécues, des solutions qui ont fonctionné, ou alors effectivement partir plutôt sur un kit au double et puis se lancer dans l'action.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour se procrée. De ceux pour qui le jour porte conseil, quand c'est la nuit qu'on agit, traîne ma chair et mon ossature vers n'importe quelle attitude, sous n'importe quel degré. Le monde est vaste, pour certains trop petits, séparés en deux castes. Ceux qui répandent de l'amour et ceux qui dépendent de la haine. On y grandit en perdant l'innocence que chacun nous possède à sa naissance. Combat nos faiblesses, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence. Adam structure mon ADN, et non pas pour vivre seul. Cause au nom de l'universel, puise mes instruments dans la fleur pour ma faune, dans la rue pour mes gens. Aux instincts fauves, à nous les fautes. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion, te prive de contrôle, primitive réaction. Reviens les autres, que veux-tu que je dise? Quand s'enfonce les têtes de mon 92 enfance, trop se plaise, attiser, vomir, spliff avant de dormir, et dès le matin remise. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, pas le temps pour les regrets.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès.
On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui t'y blâme? J'ai pas besoin de tes larmes et le drame. Depuis le zipper les piges, c'est que c'est niqué, donc je vais mon billet. Si je dois te briser pour briller, hors de portée mort, de rire sans remords. Quand j'écoute les menaces de mort, des forces de l'ordre. Écoute du RAP, le mec qu'on a rien à péter. A tout niquer, je viens m'apprêter, m'aider. Les femmes et les enfants à l'abri. Y'a nos refs prêts à agir avec magie qu'attendre à la
gris. Mauvais regard fait coup dur, hématome et point de suture. Brolique à la ceinture et plus lourd dans le coffre de la tire. Les cerveaux saturent, par manque d'amour et d'air pur. Tout comme nous si on a besoin de verdure. Mais on est des hommes, donc on endure. Revivant des zones, 92 autres scènes. Géographie, qu'on s'ouvre les portes de l'enfer. Que la lutte suffit pour couverture. Ce défi, le vice et la vertu. Les erreurs pèsent sur les cœurs. Seul le repentir sincère pour les mettre à l'écart. Mais pour amener ma part de progrès, pas le temps pour les regrets.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Mais ouais, pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Mais pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets.
Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Mais pour amener ma part de progrès.
Haine et d'eau fraîche. D'illicité de péché, mon seul taf, je rappe sur SP 12 MPC. Je vois pas mes frères agir à jeun sans le bise, incapable de survivre. Je lève le matin, mais juste pour pisser. Les soirées sont chèques et sans que je n'ai. J'ai tellement asque pour kiffer, je dois me défoncer au whisky. Du son pour les roues, un putain de flot de banlieue pour les roues. Peur négro, pisse et les terroristes. Éclate à location, insertion. Sous pression comme nos consommations, des consorts. Bédaf comme si c'est permis, la vie c'est. Les griffes avec du vernis string 90C. Suicide à la HIA. Trop faille pour aller prier. J'ai peur de crier quand je vais griller. 92 hardcore. Depuis le jardin, l'éden, j'avale une bouteille. Et je m'endors avec du
bouteille. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès.
Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès.
Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
Lunatique, pas le temps pour les regrets dans le Labo des Savoirs.
Vas-y, fais-moi un tu préfères.
Oh, j'ai tellement pas envie de jouer à ton jeu de merde.
Allez. De toute façon, on n'a rien d'autre à foutre.
Bon, ok. Tu préfères te faire enfoncer des aiguilles dans les yeux par des nazis tous les matins?
Ouais.
Ou 10 millions d'euros?
Ouais, mais du coup, je serai aveugle dès le premier matin.
Non, t'as mal aux yeux toute la journée. Après, tous les matins, tes yeux y redeviennent normaux. Là, les nazis y reviennent et ils t'enfoncent des aiguilles dans les yeux.
Le matin, vers quelle heure?
Genre 10h15.
Et genre, c'est des vieux nazis d'Argentine ou genre des néo-nazis belges?
Non, c'est des vrais nazis d'époque.
Uniforme et tout?
Ouais, genre des fantômes.
Comment ils s'appellent?
Je sais pas, c'est des nazis discrets.
Il y en a forcément un qui s'appelle Helmut.
Ouais, certainement.
Il y a combien d'aiguilles?
5.
Par œil ou en tout?
5 par œil.
Je vais prendre les 10 millions d'euros.
Putain, bien wesh, mon pote. Elle était pas évidente, celle-là, non?
Voilà, extrait du « Tu préfères » d'Orelsan et Gringe à la capsule humoristique de Canal+, bloquée. Peut-on sortir de l'indécision? C'est le thème de cette émission. Et c'est aussi le sujet de votre livre, Philippe Damier, « Décider en toute connaissance de soi ». Les neurosciences peuvent-elles vraiment nous aider à mieux nous connaître?
Oui, j'espère, oui. En tout cas, elles peuvent nous aider à limiter l'influence négative de certains biais. Donc, c'est l'intérêt. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, par exemple, je donne quelques trucs, des règles pour aider à mieux prendre une décision qu'on veut sous contrôle. Et pour, si on veut la prendre sous contrôle, de façon rationnelle, pas trop se faire influencer par les systèmes automatiques.
Alors justement, ces 10 règles, quelles sont-elles? Rapidement, évidemment.
Par exemple, sur une décision importante à prendre, je conseille souvent d'utiliser l'écrit qui va décrire le choix qu'on a à faire, décrire les différentes options, permet de prendre du recul, que quand c'est dans sa tête, on influence facilement les choses. Et c'est impressionnant de voir sur, par exemple, des décisions de carrière, comme quoi beaucoup de personnes ont pu les prendre comme ça dans leur tête, sans vraiment y réfléchir, alors que de le marquer noir sur blanc vous permet de prendre du recul et puis des fois de découvrir des éléments auxquels vous n'auriez pas prêté attention spontanément. Voilà, donc un petit truc qui peut être utilisé, utiliser l'écrit. Même si maintenant on aime moins en moins l'écrit, ça reste quelque chose d'important. Le cerveau humain, il est quand même très connecté à la main et à l'écriture, et ça a un sens.
Ça, ce sont des outils individuels, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on peut penser des études marketing ou encore des sondages d'opinion, vous parliez politique tout à l'heure, qui ont finalement vocation à connaître les décisions que nous allons prendre, mais qui potentiellement peuvent aussi orienter ces décisions?
Bien sûr, dans les gens qui se sont intéressés au processus décisionnel, il y a tout le monde des affaires, parce que pour vendre, pour le marketing, bien connaître le consommateur, ses réactions, peut aider à aller dans le sens du vendeur. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans ce cadre-là. Bon, ce qui est relativement évident, c'est le système d'amorçage cognitif que vous pouvez faire très facilement. Donc, quand dans un film, vous voyez le héros boire telle ou telle boisson, on sait que ça va influencer votre décision à venir. Donc, ou s'il utilise un ordinateur d'une marque donnée, bien, si vous regardez tous les gens qui ont regardé ce film, il y a une probabilité plus grande qu'ils achètent l'ordinateur de cette marque plutôt que d'une autre marque. Donc vous pouvez influencer comme ça les gens, le fait d'utiliser des odeurs dans les grandes surfaces pour jouer sur vos sens, sur vos émotions, et justement déconnecter votre cerveau rationnel qui n'aurait peut-être pas pris la décision d'acheter. Donc éviter d'aller faire ses courses dans les grandes galeries commerciales le soir quand on est fatigué, que ses capacités attentionnelles sont moins vives et qu'on risque de suivre plutôt ses émotions et faire peut-être des achats qu'on risque de regretter le lendemain.
On est tout le temps manipulé finalement.
On peut l'être souvent, donc il faut faire attention. Bon, après, on n'échappe pas à toutes les manipulations qui nous entourent.
Au niveau de l'entreprise, la prise de décision, elle est particulièrement étudiée ou intéressante, peut-être plus pour ce qui est du domaine managérial. Qu'est-ce qu'il y a entre les neurosciences ou justement ces questionnements de prise de décision, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est les neurosciences qui ont poussé les managers à s'intéresser à ces questions-là et qui les ont utilisées pour améliorer leur processus de décision? Ou bien est-ce que c'est parce que les managers avaient besoin de prendre mieux leurs décisions que les neurosciences se sont un peu penchées sur la question?
Comme souvent, il y a un aller-retour entre les deux, mais c'est vrai que le monde de l'économie, se posant beaucoup de questions sur les décisions erronées qu'ont pu prendre certains dirigeants, certains dysfonctionnements de groupe, ont mis de l'argent pour qu'il y ait des études faites sur la décision. Et il y a tout ce champ qu'on appelle aujourd'hui la neuroéconomie, qui est un domaine fascinant. Donc comprendre un petit peu ce qui se passe, évoqué tout à l'heure, sur l'interaction de deux individus en train de faire un échange économique. Bon, il y a des choses qui étaient connues sur l'observation macroscopique du comportement de ces individus, et on a pu aller regarder dans le cerveau ce qui se passe quand ils prennent telle ou telle décision, et voir que l'humain n'est pas aussi rationnel que ça. On pensait que l'être économique était quelqu'un de très rationnel. En fait, on se rend compte que l'être humain, de base, n'est pas aussi rationnel que le voudraient les économistes.
Frédéric Robin, vous qui travaillez aussi sur les émotions et les images mentales, ce qu'on disait en introduction.
Oui, voilà, plutôt par rapport à la question, ce sont les travaux dans le champ de la psychologie sociale qui me viennent à l'esprit, puisque déjà dès les années 1970, en fait, on étudiait le comportement des individus dans les entreprises à des fins d'augmenter le rendement économique. Le taylorisme, par exemple, tous ces travaux-là ont été fondés sur des études pour influencer le comportement des ouvriers et avoir un meilleur rendement, par exemple. Mmh.
Décider, choisir, dans les deux cas, le processus est complexe. Qui plus est, dans le cas de certaines pathologies, on l'a un peu esquissé en première partie d'émission, quelles sont les pathologies qui entament le processus décisionnel et de quelle manière, surtout?
Oui, ben, on l'a vu, il y a les, probablement ce qui est, va être la prise de risque excessive, l'impulsivité, donc où les décisions sont prises trop rapidement, où la majorité des décisions sont prises trop rapidement, ce qu'on peut voir chez certains individus, sous l'effet de certains médicaments. Et puis, à l'opposé, des personnes qui ont tellement de freins, tellement de craintes par rapport au risque pris, qui n'arrivent pas à décider. Et ce qu'on peut voir dans les états obsessionnels, où il y a une telle crainte de ce qui pourrait arriver éventuellement dans la décision, quoi, suite à la décision qu'on va prendre, qu'on ne prend pas de décision. Voilà, donc ça, c'est les cas extrêmes. Et puis après, tout un chacun va se reconnaître un peu là-dedans, parce qu'il y a des moments où on est un peu impulsif et des moments où on est un peu sur le frein. Et puis, par rapport, si on considère la prise de risque, si on étudie les larges populations d'individus, on voit qu'il est exceptionnel d'être aversif au risque dans tous les champs. Généralement, on va avoir des champs pour lesquels on est aversif au risque et des champs pour lesquels on est attiré par le risque. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va être un trader en bourse, qui n'a pas peur de miser des sommes d'argent importantes, mais qui va par contre être très aversif au risque pour sa santé. Et dès qu'il y a le moins de petits bobos, le moins de petits trucs, il va aller consulter tout de suite, prendre plein d'avis. Voilà, donc vous voyez, on peut être tous un peu différents. Et la communauté des humains, généralement, est variée et tout ça va pas trop mal fonctionner ensemble.
Là, on est proche du domaine de l'addiction ou alors du trouble obsessionnel compulsif, finalement.
Dans l'addiction, il y a un excès de récompense donc, qui favorise des comportements un peu extrêmes. Et dans l'addiction, on va retrouver là une place dysfonctionnante de la dopamine dont on parlait tout à l'heure, qui modifie le message récompensant et qui est trop fort quelque part et qui va entraîner des catastrophes, comme on a pu le voir chez des gens qui jouaient des sommes beaucoup trop fortes en bourse, quitte à ruiner leur entreprise et leur avenir personnel.
Les flux numériques ont-ils un rôle, une influence, bonne ou mauvaise, sur notre cerveau et par extension sur nos prises de décision? C'est Valentin Briche qui nous en parle.
Oui, depuis quelques années déjà, nous sommes devenus une société du numérique. Et le développement incessant de nouvelles technologies nous fait nous reposer de plus en plus sur ces dernières. Aujourd'hui, il est rare que nous nous souvenions de tous les numéros de notre répertoire ou même de tous les anniversaires de nos proches. La question qui se pose naturellement est de savoir si le numérique va impacter, dans ce cas-là, notre mémoire, mais aussi de manière plus globale, notre cerveau entier. Actuellement, le problème majeur inhérent au numérique est la masse d'informations qui assaille notre cerveau à chaque instant. Il n'est pas conçu pour ça. Car si notre cerveau est attentif à son environnement, sa grande faiblesse est qu'il ne peut prêter véritablement attention qu'à une seule chose à la fois. Même lorsque vous pensez faire deux choses en même temps, il s'agit juste de votre cerveau qui va se focaliser sur l'une et l'autre à tour de rôle suffisamment rapidement pour vous faire croire que vous êtes attentif aux deux. Et encore, cela est très fatigant pour le cerveau, alors vous comprendrez aisément à quel point le numérique et sa débauche d'informations incessantes peut surcharger ce cerveau. Pour se défendre, celui-ci va filtrer l'information de manière de plus en plus simpliste, en s'attachant à des critères comme la couleur. Et cela peut ainsi causer des difficultés à sélectionner les informations les plus pertinentes. Les conséquences en cas de surconsommation des écrans sont d'ailleurs multiples. Perturbation du sommeil, difficultés de concentration, de mémorisation, perte de créativité, etc. Dans certains cas, le numérique va même utiliser le filtrage imparfait de notre cerveau à son avantage. L'un des pires exemples est la publicité à la télévision. En 2004, Patrick Lelay, PDG de TF1, disait « Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. » Les publicités passent d'ailleurs souvent après un gros pic de stress, et ce timing est loin d'être anodin. En effet, les neurologues ont montré que le cerveau est bien plus réceptif à l'apprentissage suite à une situation de stress. C'est une réaction logique de sa part afin de mieux réagir la prochaine fois face à ce genre de confrontation. De ce fait, les publicités sont positionnées de manière à profiter de cet instant d'attention particulière du cerveau. Comme nous pouvons le voir, le numérique peut donc nous causer des difficultés, voire influencer grandement notre manière de choisir.
Et comme quand on est en balance positive, on réfléchit moins, c'est logique.
Bref, tout cela est effrayant, mais pour l'instant, je ne vous ai parlé que des dérives du numérique. alors qu'il a, à l'instar des livres, beaucoup à offrir. C'est d'ailleurs souvent en opposition qu'on voit ces deux visions. Pourtant, selon les neuroscientifiques, ces deux cultures sont certes différentes, mais surtout complémentaires. La culture du papier est basée sur la linéarité. On réalise une tâche, on lit un livre, on en retire des connaissances et on les stocke dans notre mémoire. La culture numérique est basée, elle, sur la réalisation de plusieurs tâches simultanées et sur l'assimilation de liens existants entre des notions plutôt que l'assimilation de son contenu. Prenons un exemple pour illustrer tout ça. Lire des livres va par exemple améliorer votre vocabulaire, développer votre imagination et vos connaissances. Tandis que jouer à des jeux vidéo va davantage améliorer vos réflexes, vous entraîner à prendre en compte des divers paramètres simultanément et en tirer une stratégie rapidement. Ainsi, il ne faut pas dénigrer le numérique. Notre cerveau change avec cette nouvelle culture, mais il faut tout de même guider cette évolution sur le bon chemin. Le numérique a ses dangers, certes, mais plutôt que de le rejeter, cherchez plutôt à le canaliser afin de pouvoir exploiter ses incroyables possibilités.
On évoquait avec Ludivine tout à l'heure la prise de décision au niveau médical. Aujourd'hui, il y a des applications et d'autres outils numériques qui aident les professionnels de santé dans la prise de décision concernant les patients. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose au regard de tout ce qui vient d'être dit ?
C'est difficile comme question. Ça a probablement une utilité. Pareil, c'est un élément qui peut aider à l'appréciation et à la décision, il ne faut pas la baser que sur ça. Parce que finalement, quand on vient voir un médecin, il y a plus que la décision exacte du diagnostic sous-jacent à faire. Si c'était que faire le bon diagnostic chez le patient qui vient nous voir, ça, une machine pourrait le faire. Mais un patient, il vient voir autre chose, il vient voir de l'empathie, il vient voir de la compréhension, il vient voir l'analyse d'un contexte et finalement, la décision ou ce qu'on va dire du diagnostic, etc., va dépendre beaucoup du contexte. Alors après, c'est vrai que les médecins sont des humains comme les autres, donc avec leur charge émotionnelle, des moments où ils sont fatigués. Ils ont aussi ce biais qui est extrêmement fréquent, qui est l'excès de confiance. Donc ça a été bien étudié chez les médecins, c'est vrai dans beaucoup d'autres métiers, beaucoup d'autres situations. On a tendance à se croire un peu meilleur qu'on ne l'est, et c'est normal chez les humains certainement. Et du coup, ça peut être source d'erreurs médicales. C'est-à-dire ne pas avoir la modestie de prendre un avis complémentaire parce qu'on considère que voilà, on a posé le bon diagnostic, ça peut être source d'erreur. Et ça, que ce soit dans le monde médical, le monde de l'entreprise, le monde politique, souvent l'excès de confiance, quand il est trop marqué, entraîne beaucoup de catastrophes.
Frédéric Robin ?
Oui. Par rapport à une question en tout cas spécifique qui touche le milieu médical que je connais moins, mais en fait, je pense plutôt que c'est une aide, effectivement, au diagnostic, qui n'est pas à négliger, effectivement.
Mais qui ne remplacera pas, puisque c'est aussi votre domaine de...
Qui ne remplacera
les émotions,
pas l'homme,
l'empathie, dont
voilà,
parlait Philippe Damier.
Voilà, tout un tas de facteurs. Mais enfin, au moins, ça permet de relativiser, de prendre du recul.
De simplifier, finalement.
Un petit peu comme... Je le disais tout à l'heure, en fait, le fait de prendre des notes et de prendre du recul par rapport à la décision à prendre, par rapport aux différents facteurs, de libérer aussi des ressources cognitives pour pouvoir raisonner plus facilement, eh bien, ce genre d'outils permet la même chose, sauf que c'est informatisé, et voilà quoi.
Pour conclure et reprendre plus ou moins la question qu'avait posée Ludivine en seconde partie d'émission, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes et des mauvaises décisions ? Est-ce que finalement, la pire des décisions, c'est celle que l'on ne prend pas ?
Ça dépend le contexte. Hein. Des fois, il vaut mieux ne pas prendre une décision.
C'est relatif, c'est tout à chacun.
Voilà. S'il y a un biais qui a influencé nos décisions... indépendamment de notre conscience, là, c'est pas très bon et c'est pas une bonne décision. Mais après, voilà, si vous choisissez des numéros au loto, je vous garantis pas de prendre systématiquement la bonne décision. Mais la bonne décision peut être peut-être de pas prendre de décision et de dépenser les quelques euros qu'il faut pour acheter le ticket.
Vous dites que ça dépend du contexte, ça dépend aussi de l'appréciation, c'est-à-dire que ce qui peut être une bonne décision pour nous peut être une mauvaise décision pour les autres aussi.
Aussi, oui.
Bien sûr, oui. Tout à fait.
La prise de décision est un phénomène qui peut s'avérer très complexe, aussi bien d'un point de vue neuroscientifique que d'un point de vue psychologique. Notre cerveau est capable d'analyser et de traiter de nombreux scénarios afin de nous permettre de prendre une décision. Mais comme dans tous les domaines, il y a des limites, des biais qui peuvent altérer nos choix. La connaissance de soi, la prise de recul, la maîtrise des biais peuvent nous amener à mieux prendre nos décisions. Tout cela demande du temps, ce que souvent nous n'avons pas. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités, Philippe Damier et Frédéric Robin. Merci à nos chroniqueurs, Camille Sicot, Valentin Briche et Cathy Dogon, également à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine au Labo des Savoirs.